Bonjour à tous. J'avais commencé en début de semaine à préparer une prédication, puis comme ça arrive quelquefois, c'est pas courant, mais en cours de semaine, ma pensée, ou peut-être la pensée du Seigneur, j'espère, m'a fait bifurquer sur autre chose, sur un texte qui est un texte que j'aime bien parce que c'est une histoire de rencontre. J'aime les belles rencontres. Et cette rencontre, c'est celle que nous propose l'évangéliste Jean dans son évangile, le chapitre 3. C'est une rencontre entre Jésus et un chef des pharisiens, un certain Nicodème. Alors j'aimerais lire, pour commencer, cette rencontre, le récit de cette rencontre que nous fait Jean dans son évangile, qui est le dernier évangile qui a été écrit, donc bien tardivement. Et on a l'impression que Jean, connaissant les évangiles qui circulent, Matthieu, Marc et Luc, dans les églises du premier siècle, trouve bon de dire aussi ce que lui a vécu, lui qui était un tout jeune homme qui s'est mis à suivre Jésus, et à la fin de sa vie, isolé et exilé et obligé de rester sur l'île de Patmos, il a écrit deux livres, l'Évangile et puis l'Apocalypse. Et là, il trouve bon de donner une autre lumière, différente de celle des trois autres évangiles qu'on appelle communément les évangiles synoptiques, c'est-à-dire ceux qui ont un déroulé un petit peu semblable. Lui, il donne un autre éclairage et au tout début de son évangile, il nous raconte cette histoire de rencontre. Mais, le mais est important, gardez-le en mémoire. Mais, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. il y a dans le Nord Finistère une église qui est l'église de Saint-Égonec. Elle a cette particularité, c'est qu'elle a au milieu de cette église, le long d'une des parois, une statue ancienne, qui est la statue de Nicodème. Et moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Une église au sein de laquelle il y a un homme qui vient pour rencontrer le Christ. Nous ne sommes pas tenants de la présence de statues dans nos églises, nous protestants évangéliques, mais je me dis que ceux qui viennent dans cette église de Saint-Égonec, qui est à 50 km de Brest, doivent se dire, mais c'est qui ce bonhomme ? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on ait une statue de lui dans une église ? C'est un homme qui vient de nuit et il est dit qu'il était pharisien, chef des Juifs. Et il fait la rencontre de Jésus. En fait, ce qui est déterminant dans la vie, le témoignage de ce Nicodème, c'est qu'il décide de faire la rencontre de Jésus. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit ce matin en vous préparant à venir dans cette église, peut-être pour la première fois, peut-être en visite, peut-être comme d'habitude, mais est-ce que vous vous êtes dit « Je me prépare pour faire la rencontre de Jésus » ou bien est-ce que vous vous êtes dit « Tiens, je vais rencontrer Jean-Marc, Juliette, Marc, Daniel, Laurent, Francine, etc. etc. » qui êtes-vous venu rencontrer ce matin ? Ce Nicodème dans l'église de Saint-Égonec, eh bien, c'est un homme qui est là parce qu'il a voulu faire une rencontre. Mais le texte que nous avons lu commence par cette petite conjonction de coordination. Mais, c'est un petit mot qui est toujours, comme toutes les conjonctions de coordination, posé dans un texte ou un discours pour faire référence à quelque chose qu'il y a eu avant. Alors, comme je le disais à certains dans des formations bibliques ou autres, les conjonctions de coordination sont toujours importantes parce que ça renvoie à l'avant. Alors, le « mais », qu'est-ce qu'il y a eu avant ? « Mais » il y avait parmi les pharisiens. « Mais » eh bien, juste avant, vous avez l'épisode des vendeurs chassés du temple. C'est ce que Jean explique en disant qu'à un moment donné, eh bien, la Pâque des Juifs étant proche, Jésus monte à Jérusalem, et puis là, lorsqu'il rentre dans le temple, il s'aperçoit que le temple est devenu un espace commercial, une grande surface, le cadeau du coin, le cadeau de Jérusalem. On y achetait des pigeons, on y vendait des objets à manger, à boire, peut-être des objets soi-disant en lien avec le culte. Enfin, c'était une grande surface commerciale. Et Jésus se met en colère. Il est dit qu'il a pris un fouet de corde et il a chassé tout le monde en disant « Vous ne ferez pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et Jean rappelle ce passage de la parole de Dieu où il était écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus s'est mis en colère contre des hommes et des femmes. Eh oh, on dit toujours qu'il faut parler de l'égalité. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient transformé la relation avec Dieu et l'outil pédagogique qu'était la loi d'Israël pour rencontrer Dieu. Ils l'avaient transformé en commerce. Il n'y avait plus de foi dans le temple. Il n'avait que des intérêts à faire fructifier, des choses à vendre et à acheter. Les vendeurs étaient aussi coupables que les acheteurs. Il n'y avait plus de recherche de relation avec Dieu. Alors Jésus s'est mis en colère parce qu'il n'y avait pas la foi dans ce lieu qui était la maison de mon Père, disait-il. Ça, c'est ce qu'il y a avant le « mais », le constat que le temple était devenu une maison sans foi. Mais il y a aussi un autre épisode qui est avant « et qui justifie le mais. Et le mais, c'est toujours une conjonction de coordination qui vient en opposition par rapport à ce qui précède, les vendeurs du temple, mais aussi, pendant que Jésus était à Jérusalem, chapitre 2, verset 23, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Ça, c'est avant l'épisode de Nicodème. Le « mais » il y avait parmi les pharisiens fait référence à ces deux situations. Les vendeurs chassés du temple, où il n'y avait plus de foi dans le temple de Jérusalem, et puis ces gens qui crurent à Jésus-Christ à cause de ces miracles. On se dit, mais attends, c'est bien, non ? C'est une bonne chose que les miracles suscitent la foi. C'est une bonne chose que, sur la base de ce qu'ils voient, des hommes et des femmes s'approchent. On aurait certainement, nous, apprécié. Faisons une réunion d'évangélisation. Invitons un évangéliste qui fasse des guérisons. Qui guérisse. Pour que les gens se convertissent. On dit, bah oui. Mais alors, quand on lit ce passage, on dit, ah ben, c'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi ? Ben, en fait, parce que dans ce texte, il est dit que les hommes et les femmes qui virent ces miracles crurent. C'est-à-dire que quelque part, ils crurent en son nom, mais il nous dit que Jésus ne crut pas en eux. En clair, c'est ça le texte original. C'est pas « ils ne se fiaient pas à eux ». C'est-à-dire « ils crurent en Jésus et Jésus ne crut pas en eux ». Oula ! Pourquoi ? Qu'y a-t-il de mal à ce que notre foi repose sur ce que nous voyons ? Ils crurent en voyant. On pourrait dire que, on pourrait remplacer cela par « ils crurent parce qu'ils ont vu ». Ils crurent parce qu'ils ont vu. J'ai 46 ans, je crois, ou 45 ans de vie chrétienne. J'ai assisté à des tas de réunions d'évangélisation où on invitait les gens à venir voir. Venez voir ! Il va se passer des choses étonnantes. Venez voir ! Il va y avoir des miracles, des guérisons. J'ai pas vu de résurrection, mais dans certains pays du monde, il y a eu des chrétiens qui ont vu des résurrections. Mais est-ce que notre foi repose sur ce que nous voyons ? La question est là. Et Jésus n'a pas cru dans ceux qui croyaient. Oula ! Jésus peut ne pas croire en ceux qui croient. Non, si notre foi est une foi qui repose sur ce que nous voyons. Même les pasteurs peuvent être aussi, très demandeurs de voir des choses. Je me rappelle d'un conseil national où les pasteurs, je le dis souvent, voulaient absolument tous aller à Toronto, quasiment tous. On était deux à ne pas vouloir y aller. Évidemment, moi j'étais dans le lot. On a dit, mais si, c'est gratuit, c'est payé, c'est offert. On peut aller à Toronto voir ce qui... Ma foi a-t-elle besoin de voir ? Est-ce que c'est nécessaire ? Dépenser des sommes d'argent astronomiques pour aller voir ou simplement avoir une motivation, un engagement qui ne consiste qu'à aller voir. On sait bien en Bretagne qu'il y a des lieux où on dit « Ah, il faut aller là, telle réunion, tel rassemblement. » Oui. Mais ce que Dieu regarde et ce que Jésus voit, c'est « Est-ce que tu crois parce que tu veux me rencontrer moi ?» Et non pas ce que je fais. Les signes peuvent fortifier la foi. Ils sont bons. Mais ils sont là pour développer notre foi là où elle est déjà présente. Je crois. Et ce que je vois affermit, renforce ma foi. Ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de croire, ces hommes, par ce qu'il faisait. Et c'est bien la nature de notre croyance qui est interrogée. Est-ce que c'est l'opération matérielle qui frappait ces gens? Alors Jésus n'avait pas foi en leur foi. J'aime bien cette formule. Ils n'avaient pas foi en leur foi. Parce qu'ils savaient ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, de ces hommes-là. Vous avez déjà entendu parler de ce don qui consiste à discerner les esprits? On a dans ces quelques versets du chapitre 2 un Christ qui exerce le discernement des esprits, qui discerne ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, je dirais presque un discernement à son apogée. Nous, on aurait été là, on se dit « Ah, oh, c'est bien !» On se réjouit. Tu sais, à l'église, il y avait quelqu'un, il a vu une guérison et il a cru en Jésus. Est-ce qu'il croit en Christ et non pas dans la guérison, dans la manifestation matérielle de ce qui s'est passé? Est-ce que vous croyez? Est-ce que je crois? Jésus discerne, il sait sur quoi repose ma foi. Moi, je viendrai dans l'église apostolique de Kevin à condition qu'il y ait une prophétie tous les dimanches au culte. Je veux voir ça. Ou je veux voir une guérison. Ou je veux voir ceci. Ou je veux voir cela. Christ sait sur quoi repose. Il a le discernement sur ce qu'il y a en moi. Alléluia. Dieu est présent même quand il n'y a rien qui se passe. Je lisais récemment, je ne sais plus où, une petite histoire, mais je crois que je l'ai dû l'envoyer au groupe de louanges. C'est une petite fille qui était avec sa gouvernante et qui avait sa fête d'anniversaire quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, et puis qui priait tous les jours pour qu'il fasse soleil le jour de son anniversaire. Puis la gouvernante, qui n'était pas chrétienne, dit « Tu crois vraiment que le Seigneur va te répondre? Tu crois vraiment que le Seigneur se préoccupe de toi, etc. Tu crois vraiment ?» Et vous savez quoi? Le jour de son anniversaire, il y a eu un sale temps, mais un sale temps. Et la gouvernante, voyant ça, s'est approchée de la petite fille en disant « Mais alors, tu crois que tu vois le temps qu'il fait? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Dieu a entendu ta prière ?» Et la petite fille a regardé sa gouvernante et a dit « Oui, oui, il m'a entendu. Il m'a dit non. » Il ne s'est rien passé, donc je ne crois pas. Elle avait une foi qui disait, quand il ne se passe rien, je continue à croire. Sur quoi repose notre foi? Sur ce que nous voyons? Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Parmi les pharisiens, alors les pharisiens, pour ceux qui connaissent peut-être moins la culture judaïque, les pharisiens, c'est un des trois groupes principaux des religieux d'Israël, et qui est né à peu près entre 160 et 180 avant Jésus-Christ, et qui est un courant vraiment extrêmement puissant. Il y avait les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Et le courant pharisien était reconnu pour sa rigueur. L'important pour les pharisiens, c'était de faire ce que la loi disait. C'était pas d'y croire, c'était de le faire. Le faire était plus important que le croire. Donc les pharisiens étaient dans cette logique-là. Il y a eu des pharisiens très, très célèbres et ils étaient avec aussi cette pensée que il n'y avait pas de résurrection. Il y avait des choses comme ça dans leur approche de Dieu et de la vie avec Dieu qui étaient très particulières. Mais ils étaient dans cette rigueur. Il faut faire ce que dit la loi. D'accord. Et parmi les chefs des pharisiens, chefs du peuple, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Alors, il était dans ce courant-là. Il faut faire. Et il s'est approché de Jésus, un homme que l'on retrouve au chapitre 7 et au verset 19 de l'évangile de Jean. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser que Nicodème, c'est une histoire apportée par Jean pour, je dirais, souligner la nature de Christ ou son opposition au mouvement pharisien. Non! Il accompagne quelqu'un qui est curieux et qui va faire un cheminement. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là? Je disais, il y a 15 jours, parmi les 7 diacres qui ont été choisis, il y avait ce Nicolas. Moi, j'aime beaucoup Nicolas parce qu'il était prosélyte. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui n'était pas juif et qui est devenu juif parce qu'il a réalisé que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Et puis, quand il a croisé la route de Jésus, il a continué sa route. Il est devenu chrétien. À tel point qu'il a été reconnu dans la communauté chrétienne comme un homme plein de sagesse. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il a découvert, il a continué sa route. Est-ce que nous sommes, nous aussi, des Nicolas ou des Nicodèmes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne se contentons pas de ce que nous avons découvert, mais qui continuons notre route, qui continuons à chercher Dieu. Nicodème fait une démarche. Il vient de nuit. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il vient de nuit. Il est chef du peuple, c'est-à-dire un des représentants du Sanhédrin. Il fait partie des pharisiens. Et en plus, il dit ceci, il dit « Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu ». Il dit « nous », c'est pas, il ne dit pas « je ». Ça veut dire que Nicodème, quelque part, il porte aussi la parole de plusieurs des responsables du Sanhédrin qui se disent « cet homme-là, ce qu'il fait nous renvoie à ce qu'il est ». Ils ont fait un chemin. Il n'est pas tout seul, il y en a plusieurs dedans. On pense à Gamaliel, qui faisait partie aussi du Sanhédrin, cet homme qui a pris la parole en disant « Il vaut mieux que un seul meure, plutôt que la répression fasse de la part des Romains de nombreuses victimes dans le peuple d'Israël. Il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un seul. » Et en disant cela, sans le savoir, il prononçait une parole essentielle, un seul qui meurt pour les autres. Gamaliel, Nicodème, d'autres étaient dans le Sanhédrin, interrogatifs sur celui qui est là. Et il dit Nicodème, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Très étrange, puisqu'il commence sa phrase par Rabbi, maître. Ça veut dire qu'il lui attribue un titre qui, dans un premier temps, le place à égalité des rabbins qui ont fait de nombreuses années pour devenir rabbin. Rabbi, maître. Puis en même temps, il sait qu'il n'a pas fait ces études-là. Mais il dit, tu es maître parce que nous savons que tu es un docteur, que ton enseignement ne peut venir que de Dieu. Ta parole, ce que tu dis, nous ouvre les yeux sur les mystères de Dieu. Est-ce que nous sommes, nous aussi, comme Nicodème, avec cette reconnaissance? Est-ce que ce que nous dit Jésus nous ouvre les yeux sur le mystère de Dieu, sur son amour, sur sa grâce? Est-ce que vous vous êtes réveillé un jour en ouvrant la parole de Dieu et tout à coup le Saint-Esprit vous a révélé les mystères de Dieu, Dieu même? J'étais séparé de lui et il a accompli une œuvre qu'il était impossible pour un homme d'accomplir. Il m'a donné son fils. Mes yeux se sont ouverts. Maître, nous savons que ta parole, comment commence l'évangile de Jean? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole-là s'est ouverte. Tu ne peux pas dire être cette parole-là au milieu des hommes sans que tu viennes de la part de Dieu. Alors même si tu n'as pas fait les années requises pour être un maître, un rabbi, pour moi, pour nous, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Le « nous » est souvent une protection pour ne pas s'impliquer, pour ne pas choisir individuellement en se disant, c'est nous. À partir de quand est-ce que le nous peut devenir un je? Nicodème vient à Jésus en disant, nous savons, nous. Et il vient de nuit. On peut supposer qu'il vient de nuit parce qu'étant un représentant important de la religion juive à Jérusalem, il ne souhaitait pas qu'on l'aperçoive. On peut aussi imaginer qu'il a choisi un moment plus approprié, un moment de calme où il pouvait être en tête à tête avec Jésus. mais il reste sur le registre du nous. Ah, nous à Quévin. Je ne sais pas à Côte-Bec. Je ne sais pas. Mais nous, à Quévin, on vit des choses fabuleuses. La question, ce n'est pas le nous, c'est le jeu dans le nous. Et pour passer du nous au jeu, je dis souvent, il faut passer par le genou. C'est se voir à genoux devant Dieu. À genoux. Même quand on devient un peu vieux, qu'on a de l'arthrose. Hein ? Non, il n'y a pas ? Même quand on est fatigué, chargé, pouvoir sortir du nous pour rentrer dans la relation du jeu. Je te reconnais, je te vois, je sais qui tu es. Et tu sais qui je suis. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, dit Paul aux Philippiens. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nicodème vient à la rencontre de Jésus quelque part pour faire preuve d'humilité. Il n'ose pas encore entrer dans le jeu. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Et il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et vous savez, je me suis souvent, en relisant ce texte de rencontre entre Nicodème et Jésus, posé la question si Jésus écoutait vraiment. Dans mon travail d'accompagnement, de soins, je suis souvent en entretien avec des patientes, et ça a été vraiment, et certaines d'entre vous m'ont aidé à le comprendre, la nécessité d'être à l'écoute de l'autre. Un jour, il y a quelqu'un ici qui m'a dit « Tu m'écoutes pas, je m'en vais. » Je dis « Bon, oula !» Et c'était vrai. Ça m'a aidé parce que le lendemain, j'avais un entretien avec une malade et je me suis dit « J'ai pas le droit de recommencer. » Ça veut dire des fois, j'étais en train de regarder la fenêtre, faire semblant d'écouter et puis j'étais pas là. Dieu nous écoute et Dieu est présent. Et il est dit que quelque part, nous avons à passer du nous au jeu. Et là, quand je vois la réponse de Jésus, une fois que Nicodème lui dit « Personne ne peut faire », et tout à coup, Jésus lui parle de « je te le dis en vérité », ce qui est une formule pour insister sur ce qui va suivre, ce que je te dis, c'est vrai, fais attention, écoute. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et quand on lit les deux phrases, la fin de l'intervention de Nicodème et ce que dit Jésus, il dit, mais il n'y a aucun lien. Nicodème dit, car personne ne peut faire. Et en fait, ça nous renvoie au mais. Est-ce que Nicodème serait comme ceux qui fondent leur foi sur ce qu'ils voient? Car personne ne peut faire. Tu es un docteur venu de la part de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas au même niveau que les autres rabbins. Tu es quelqu'un d'autre, quelqu'un de spirituel. Car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, est-ce qu'il serait comme les autres qui croient parce qu'ils voient? Est-ce que Nicodème serait de la même nature? Et en fait, on s'aperçoit que dans la relation entre Nicodème et Jésus s'instaure une relation de sincérité. Là où Jésus, quelques versets au-dessus, disait, il était dit de lui qu'il ne croyait pas dans leur foi. Il n'avait pas foi en leur foi. Là, en fait, face à Nicodème, il discerne ce qu'il y a derrière. Une foi qui est en train de naître. Quelque chose qui commence et qu'il va accompagner. Nicodème essaye de se cacher derrière. Oui, c'est parce que nous avons vu ce que tu faisais, ce que tu disais, etc. Mais Jésus discerne dans leur rapport à Nicodème autre chose. Quelqu'un qui est véritablement en éveil, en attente. Alors, il coupe court. Quelque part, en entretien thérapeutique, on dirait il casse la dynamique qui s'installe. Il ne va pas dans la pensée. Ah, oui, c'est vrai que je fais des belles choses. Hein? On pourrait dire que Nicodème caresse Jésus dans le sens du poil. Tu es quelqu'un de fabuleux, de merveilleux. Oh, tu as fait des choses. On arrête là. pas la peine de continuer, c'est pas intéressant. Ce que tu es en train de dire là n'a pas d'intérêt, et pour toi et pour moi, dans notre relation. Voilà, je vais te dire. Et là, Jésus l'entraîne sur quelque chose de nouveau. Il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, de nouveau, naître de nouveau. Là, c'est plus un discours léger. Hein. On ne parle pas au superficiel. Il faut que tu naisses de nouveau. Et là, la question de Nicodème, c'est « Et comment je fais quand je suis vieux ?» Vous me direz, vieux, c'est tout relatif. Hein. On commence à être vieux le jour de sa naissance. On a un jour de plus, deux jours, trois jours, un mois, un an. Après, on est un petit peu plus moins jeune que les autres. Ça m'a vexé un jour où, dans le métro à Paris, il y a un jeune homme qui s'est levé pour me laisser sa place. Je n'ai pas apprécié du tout. Pas du tout. J'espère que c'est les cheveux blancs, que c'est pas. J'ai pas aimé du tout. Comment peut-on naître de nouveau quand on est vieux, dit Nicodème. Il était pharisien et il supposait, comme tous les juifs, que ceux qui étaient nés comme enfants d'Abraham étaient enfants du royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Je suis né au bon endroit, dans le bon peuple. Voilà, je suis un enfant de Dieu. Et Christ lui dit, non, tu ne peux pas aller plus loin si tu ne nais de nouveau, si tu veux voir le royaume. Ça ne suffit pas d'être juif, d'être pharisien, d'obéir à la loi point par point, jusqu'à la virgule, au tiré, au point de suspension, ça ne suffit pas si tu ne nais de nouveau. Il lui propose quelque chose qui est une expérience personnelle. Et là, pour le coup, vous savez quoi? Il y a deux expériences qui sont uniquement personnelles et individuelles. Toutes les autres peuvent être collectives. Mais il y a deux expériences qui sont uniquement individuelles. La naissance et la mort. Entre les deux, toutes les expériences peuvent être collectives. Mais la naissance et la mort, ce sont que des expériences où on peut dire « je ». Même les jumeaux vivent une expérience individuelle au moment de la naissance. Il y en a deux, il peut y avoir des triplés, mais les jumeaux, il y en a un qui sort le premier. On a des exemples hein, dans la Bible de jumeaux, avec une bagarre à un moment de la sortie. Il y en a un qui essaye de sortir, hop, il est tiré par l'autre, et c'est l'autre qui sort. Hein. Mais la naissance est une expérience individuelle. Là où Nicodème dit, nous savons que, Jésus lui propose une expérience qui est uniquement individuelle. Il faut que tu naisses de nouveau. Ah, est-ce que c'est facile? Et lorsque Jésus lui répond à cela, est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère? En vérité, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. D'eau et d'esprit. En fait, les pharisiens étaient dans une position très négative et opposée au baptême proposé par Jean-Baptiste. C'était une opposition complète. Le baptême d'eau qui était proposé par Jean-Baptiste, qui était un baptême de repentance, c'était un moment où les pharisiens ne se reconnaissaient pas. Alors on va avoir des baptêmes dans quelques temps, trois baptêmes. Hein. Et en fait, alors que Nicodème fait partie du mouvement pharisien, Jésus dit, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. En fait, il va aller jusqu'au bout de sa réflexion quand il dira, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. En fait, il lui propose une expérience qui est en dehors de la réalité de cette chair. Il ne s'agit pas que tu retournes dans le ventre de ta mère et que tu fasses chemin arrière. Ça fonctionne que dans les films de science-fiction. La vie de Benjamin Button, je ne sais pas si vous connaissez avec Brad Pitt, où vous avez un homme qui est vieux et qui revient quasiment jusqu'au jour de sa naissance. C'est de la fiction. Mais spirituellement, Jésus propose à Nicodème cette possibilité. Faire un second départ grâce à ce que Jésus a accompli sur la croix. Il est possible de naître de nouveau. Il est possible de vivre cette expérience d'un nouveau départ. Comment faire partie du royaume de Dieu ? Ben, il n'y a pas de salut en aucun autre, dit les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. On est dans la base de notre foi. Il n'y a pas de naissance possible sinon par la foi que nous avons dans le Christ, dans ce qu'il est et ce qu'il a fait. Oh, pas les miracles, les guérisons, etc. Ce qu'il a fait sur la croix. Ce que Dieu a fait lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Ce qu'il a accompli en l'élevant et en le glorifiant. Ce qu'il a fait en envoyant l'Esprit. Il n'y a pas de possibilité pour un homme de naître de nouveau s'il ne naît d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit, ça renvoie à l'image du baptême. Au fait que l'homme se saisit à un moment donné de la grâce qui se trouve en Dieu. Je crois que Dieu est un Dieu qui me sauve, qui accomplit ce que je ne pouvais pas faire. Et Dieu répand son esprit en nous, qui atteste que nous sommes véritablement fils et filles de Dieu. Est-ce que nous avons fait ce chemin ? Est-ce que nous le faisons ? Est-ce qu'il est installé en nous ? Est-ce que l'Esprit Saint, chaque jour, nous rappelle que nous sommes nés d'eau et d'esprit ? Alors, il y a des signes à la nouvelle naissance. Alors, pour Nicodème, effectivement, je ne sais pas si... On sait qu'il est intervenu, qu'il a fait son chemin avec Jésus. Je ne sais pas si, dans l'éternité, il va regarder l'église de Saint-Égonèque en se disant « Waouh ! Ils m'ont élevé une statue alors que j'ai rien fait, j'ai juste cru en celui qui était là. » Rassurez-vous, on a décidé au niveau de l'équipe pastorale qu'on n'élèvera aucune statue dans cette salle, ni pour Laurent, ni pour Elisabeth, ni pour qui que ce soit. Hein ? Mais on va se réjouir ensemble d'être nés de nouveau. Et que les signes de cette nouvelle naissance puissent véritablement nous accompagner. Et les fruits de la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est ? On dira que les fruits de la nouvelle naissance, ce sont les fruits que le Saint-Esprit manifeste en nous. Je ne connais pas grand-chose dans les arbres fruitiers, mais je sais qu'aujourd'hui, la majorité des arbres fruitiers ne peuvent être fructifères que s'ils sont greffés, hein, il me semble, pour une grande majorité des... Si on laisse, je dirais, le porte-greffe produire des fruits, ça donne des fruits un petit peu ridicules, qui n'ont pas beaucoup de goût, de saveur, etc. Par contre, si on greffe sur un porte-greffe, un arbre fruitier, une variété qui peut donner de bons fruits, alors les fruits sont délicieux. Et on s'en régale, on en achète régulièrement. Hein, vous en mangez. Est-ce que dans l'Église, le signe de la nouvelle naissance, c'est les fruits qui sont portés par les enfants de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience. Bon, celui-là, il va falloir que je le travaille un petit peu, la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quels sont les fruits qui naissent de cette nouvelle naissance parce que je suis greffé sur Jésus-Christ ? Alors, quelle attitude puis-je avoir ? Quelle a été l'attitude de Nicodème ? On le voit plus tard, être présent, essayer de prendre en compte certaines choses, d'avancer. Quelle attitude est la mienne ? Voici donc ce que je dis. Ce que je dis et je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. En préparant quelqu'un au baptême, c'était avant-hier, nous sommes passés sur le chapitre de la sanctification. Quelqu'un connaît ce mot-là ? Ouais, ça vous dit quelque chose vaguement, la sanctification. C'est pas un message qu'on donne tous les jours, parce que sinon les églises seraient vides. La sanctification, nous croyons dans un Dieu qui est saint et qui veut que nous devenions saints comme il est saint. Il désire que nous devenions semblables à Christ, afin que dans ce monde, ceux qui nous regardent au travail, à l'école, quand nous accompagnons nos enfants, quand nous allons rendre visite à des amis, dans notre relation de voisinage, etc., que ces gens-là se disent, tiens, il y a quelque chose de différent. C'est l'œuvre que l'Esprit-Saint accomplit en nous pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Est-ce que c'est cela, naître de nouveau? Ou est-ce que nous restons des bons et des jolis petits bébés, bien joufflus, bien roses, mignons? Ah, on a vu le fils d'Hervé et de Laurence qui commence à ramper. Est-ce qu'on veut rester des chrétiens qui rampent dans l'Église? Ou qui se mettent à genoux? Ou peut-être qui se mettent debout? Ou peut-être qui grandissent et qui deviennent des hommes et des femmes matures pour aimer et servir Dieu et glorifier son nom dans ce monde. Une histoire de rencontre entre Nicodème et Jésus, c'est l'histoire de notre rencontre à nous. Ouais, nous avons été pharisiens, nous aussi. Et peut-être que parfois, nous le sommes encore. Mais est-ce que nous pouvons devenir un homme, une femme qui est née de nouveau? Seigneur, merci pour ta parole qui nous rencontre. Et je souhaite et je prie pour qu'elle nous rencontre les uns et les autres, moi y compris, chaque jour. Pour que véritablement nous puissions passer de la nuit au jour, comme ça a été le cas pour Nicodème. Ne plus venir en cachette et dans les ténèbres, mais pouvoir nous tenir devant toi dans la lumière et la clarté de ton esprit. Pour que nous puissions là aussi naître de nouveau à une vie nouvelle où se trouvent toutes tes promesses pour nous. Garde-nous, Seigneur, de rester des enfants qui rampent, qui sont vivants en toi, mais qui marchent à quatre pattes. Donne-nous de devenir des hommes et des femmes selon ton esprit, selon ton cœur, parce que ton œuvre qui est appelée à s'accomplir dans notre vie, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors Seigneur, fais souffler ton esprit. Donne-nous l'humilité pour passer par la case à genoux devant toi et accepter de recevoir la lumière de ce que nous avons à vivre. Amen.